Ce matin, le message, c'est Dieu transforme notre caractère. J'espère que dans l'Assemblée, tout le monde a un bon caractère, parce qu'on va avoir des problèmes, moi, d'avant, là, parler de ce sujet-là. Hein? Dieu transforme notre caractère. Si on n'est pas souriant, ben, on va être comme cette petite madame-là. Hein? On va apprendre à sourire, à voir la vie d'une autre manière. Voir la vie de la façon que Dieu veut qu'on la voie. On va remettre ça entre ses mains. Merci, Seigneur, de nous avoir encore réunis ce matin, Seigneur. Ce privilège que nous avons d'avoir ta parole qui nous guide, qui nous nourrit, Seigneur. D'avoir ton esprit, Seigneur, qui nous enseigne toutes ces choses. Aide-moi à partager cette parole, Seigneur, sur le caractère. Merci parce que tu travailles dans nos cœurs. Tu veux nous rendre semblables à ton Fils. Je t'en remercie. Amen. On va commencer avec Romains chapitre 12, verset 2. Il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Donc, on voit que Dieu veut nous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quel beau verset, hein? On voit que Dieu s'intéresse bien plus à notre caractère, ou si vous aimez mieux, à notre personnalité qu'à notre confort. Dieu s'intéresse bien plus à nous transformer l'image de son Fils qu'à notre confort. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde toujours au cœur. Ne dit pas qu'en regardant à nous autres, il regarde au cœur, il ne regarde pas nos biens. Il dit pas, hey, il y en a du stock, ce gars-là, hein? Il y en a des biens. Wow, il est éduqué, il a fait des grosses études. Hein? As-tu vu l'argent qu'il y a en banque? Pensez-vous que quand Dieu nous regarde, il voit ça? Dieu dit, c'est pas ça que je regarde. Regarde à votre personnalité. Pas toutes les richesses que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est ça, réussir sa vie, avoir beaucoup de richesses? Aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Ils se servent de toutes sortes de situations pour que notre personnalité ressemble à celle de Jésus-Christ. On va voir ça dans le message. Toutes sortes de situations que Dieu se serve pour nous transformer. Parfois, quand nous traversons des situations difficiles, plutôt que d'avoir une bonne attitude, ça arrive des choses de même, là, on agit pas en faisant confiance à Dieu, mais c'est notre mauvais caractère qui prend le dessus. Ça vous arrive-tu des fois, ça? Hein, vous traversez une situation pénible, et là, c'est le mauvais caractère qui prend le dessus. On devient arrogant, ça peut arriver. On devient colérique, je n'ai pas aimé cette attitude de l'autre, là, on veut te poigner un peu les nerfs. On devient amer. On a des réactions charnelles. Et ça n'arrive pas juste aux gens du monde, ça nous arrive nous autres aussi, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on doit demander au Seigneur de nous aider à nous maîtriser. On prend le temps de prendre une bonne respiration, hein? Et puis on agit selon la pensée du Seigneur. Il ne faut pas se laisser aller dans ces choses-là. N'oublions pas que Dieu permet que nous arrivent des épreuves, des frustrations et puis des attentes. On va voir ça aussi. Des fois, on prie le Seigneur, ça fait longtemps qu'on prie, mais ça n'arrive pas. Pensez-vous que ça peut être bon pour notre caractère, ça? Eh oui. Eh oui. Excusez. Donc, Dieu prend toutes ces choses-là pour former notre caractère spirituel, pour nous transformer à l'image de Jésus. On voit entre autres Simon. Avant que le Seigneur lui donne le nom de Pierre, Simon, il avait un petit caractère, lui, tout, hein? Il avait un bon caractère. Il était impulsif, parfois même téméraire. On voit après qu'il est devenu, qu'il est converti au Seigneur, puis qu'il a laissé Dieu travailler dans sa vie. Il est devenu un pêcheur d'hommes. Puis il a prêché la parole de Dieu à des milliers de personnes avec un caractère renouvelé. Vraiment, il était transformé. Et même mort martyr. Hein? Il ne voulait pas mourir comme Jésus. On l'a vu ça dans l'Évangile de Jean. Il est mort crucifié, la tête en bas. Et son caractère était vraiment transformé. Transformé par Dieu. On a aussi Saul, Saul de Tarse. Avant sa conversion, bien lui, il porte le nom de Paul, là, il était un persécuteur de l'Église. Il était persécuteur de l'Église. Il aimait ça quand il voyait des chrétiens spiritués. Il a même approuvé le meurtre d'Étienne, on sait, hein, c'est pas notre Étienne à nous autres, là, ici. Il a même approuvé le meurtre d'Étienne. Il aimait ça voir l'Église se faire persécuter, voir des gens qui mouraient. Mais après qu'il a rencontré Jésus, après que le Seigneur a transformé son caractère, on voit qu'il s'est occupé à prêcher la parole de Dieu. Le message qui venait, que Dieu venait sauver les gens par grâce. Il y a eu toute une grosse différence dans sa vie. Donc, ces deux exemples-là illustrent comment Dieu change radicalement des vies et des personnalités. Par différents moyens. Dieu se sert de différents moyens pour nous transformer. Puis c'est merveilleux. Il ne faut pas dire, « Ah, moi, j'ai un mauvais caractère. Hein? Moi, j'ai un caractère de chien. Dieu ne pourra pas jamais faire rien avec moi. » Dieu peut transformer n'importe quel caractère. Même le pire caractère. Il a travaillé pas mal, puis encore pas mal à travailler avec moi. Hein? C'est pas pour vous autres. Dieu se sert donc de différents moyens. Il peut servir de la peur. Croyez-vous ça que Dieu peut servir de la peur? Des fois, il y a une situation où on a vraiment peur. Ce n'est pas pour rien que ça nous arrive. On voit qu'Israël, devant la mer Rouge, a eu peur de Pharaon et de son armée. Pharaon courait après le peuple d'Israël, puis il voulait l'arrêter, même le faire mourir. Puis le peuple d'Israël était rendu, on peut dire, à ras la mer, était à côté après la mer. Là, il criait, il avait peur, on va mourir, on va mourir. Mais Dieu s'est servi de cela pour les enseigner que la puissance de Dieu peut même ouvrir la mer. N'importe quelle situation, faites-moi confiance. On peut s'imaginer quelqu'un traverser la mer entouré d'une muraille d'eau chaque bord. Là, ils ont vu la puissance de Dieu. Ça les a rassurés. Quelle puissance! Tantôt, ils criaient de peur, puis à un moment donné, ils ont vu que Dieu peut même faire un chemin à travers la mer. J'ai une photo pour ça. Pensez-vous qu'un controversé, la mer rouge, de même avec un mur à chaque côté, qui ne s'est pas amené à voir la puissance de Dieu, que Dieu peut tout contrôler? Ça les a rassurés. La peur a servi à les faire tourner vers Dieu. C'est les gens rassurés. Je ne dis pas qu'après ça, ils n'ont pas eu peur encore, mais Dieu se sert des exemples de même pour, des fois, nous parler. Josué aussi a eu peur quand Dieu lui a demandé de prendre la place de Moïse. Dieu dit à Moïse, il prend la place de mon serviteur, Moïse, et fait rentrer le peuple en terre promise. On sait que Josué a eu vraiment peur. C'était toute une mission, prendre la place de Moïse. Je ne suis pas capable de faire ça, hein? Il a eu peur. Mais cette mission, remplie de défis militaires, on a un ancien militaire ici, nous autres, avec Michel, hein? Remplie de défis militaires et logistiques, on peut dire, ça a transformé sa vie. À chaque instant, il a vu la présence de Dieu dans sa vie. Il a vu la présence de Dieu dans sa vie. Dieu a permis la peur pour lui montrer aussi sa puissance. Dans le psaume 107, on voit quatre exemples de groupes de gens qui ont eu peur aussi, devant des difficultés, des tempêtes, ils ont été dans le désert. Et dans ces endroits-là, c'est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Hein? Dieu se sert des détresses, des peurs, pour amener les gens à crier vers lui. C'est ainsi que la foi vient. Et on apprend aussi qu'on n'est pas autosuffisant. Ça irait tout un bien dans notre vie. Si on n'aurait pas de peur dans notre vie, on pourrait penser qu'on est autosuffisant. On est capable de se débrouiller nous-mêmes. Mais Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein? Et Dieu nous apprend ça à travers les peurs. On va lire 1 Roi 19.2. On voit Mme Jézabel. 1 Roi 19.2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Si Dieu se sert du découragement, Élie s'est découragé après la victoire qu'il a eue sur les prophètes de Baal, hein? Car Jézabel, elle voulait le tuer. Élie avait fait mourir tous les prophètes de Baal. Mais Baal, ça, c'était le dieu de Jézabel. C'est une reine vraiment vicieuse. Elle était spéciale, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle était vraiment spéciale. Donc, elle était vraiment furieuse contre Élie. « T'as fait mourir mes prophètes, elle n'était pas de bonne humeur. » Vous savez, des fois, quand on agit pour le Seigneur, la vérité de Dieu dérange ceux qui vivent dans le mensonge. Ça peut arriver qu'on se décourage parce qu'on a voulu faire bien faire, mais ceux qui vivent dans le mensonge, ils ne sont pas de bonne humeur, hein. Donc, face à l'opposition de cette reine, Élie était découragé. Mais Dieu, au lieu de le réprimander, parce qu'Élie s'était enfui, on voit ça dans les Écritures, il s'appuyait sur lui, il disait, pauvre petit de moi, hein. Dieu a répondu à ses besoins. Dans le découragement, souvent, pour Élie, en tout cas, là, lui, il avait besoin de sommeil. Il voulait qu'il se repose. Alors Dieu a permis qu'il se repose dans un endroit. Et aussi, il avait besoin de nourriture. Alors Dieu l'a nourri. Vous lirez tout. C'est vraiment une belle histoire si vous en souvenez plus bien beaucoup, là. Puis, il lui a appris à se reposer sur Dieu, à écouter la voix de Dieu au milieu des tumultes puis des menaces, à reconnaître que l'œuvre de Dieu ne repose pas sur les épaules d'un seul homme. Il y dit, « Je suis resté tout seul. » Toutes les autres sont morts. Je suis resté tout seul, hein, pauvre petit de moi. Je suis tout seul. Et puis, j'ai voulu faire la volonté de Dieu, puis là, ils veulent me tuer. Et Dieu a appris à Élie qu'il n'était pas tout seul. Il s'en était réservé un bon gros groupe. Puis, il lui a montré qu'il était toujours aussi avec lui, hein. Ça peut être pareil des fois dans une église ou dans notre famille, quelque chose qui ne va pas, on peut se décourager. Ah, l'église Saint-Just, qui va la relève? Comment ça va être dans quelques années? On peut être porté à se décourager. On peut être comme Élie, hein? Il faut rester tout seul. Hein? Mais Dieu, il s'est occupé d'Élie, il s'occupe aussi de son église, il s'occupe de vos familles, de nos familles. Il s'agit d'y faire confiance. Puis dans le découragement, c'est peut-être une occasion que Dieu nous donne pour qu'on lève les yeux vers lui, qu'on lui fasse confiance. Dieu se sert aussi des attentes prolongées. Peut-être que ça fait longtemps que vous priez pour que le Seigneur intervienne dans quelque chose. Peut-être un an, 2 ans que vous priez pour que Dieu réponde à vos prières, mais Dieu ne répond pas. Quelqu'un qui fait ça, là, c'est parce que Dieu a un but. Les attentes prolongées peuvent servir à transformer mon caractère, notre caractère. Croyez-vous ça? Dieu avait promis un enfant à Abraham et à Sarah. Il avait promis ça. On voit ça dans Genèse 17,16. Genèse 17,16, il est écrit, « Je la bénirai. » Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Donc Dieu promet un fils à Abraham et à Sarah. Mais les années passaient. Les années passaient, et ça passait. Et Sarah n'était toujours pas enceinte. Toujours pas enceinte, puis Dieu nous a promis ça. À la naissance d'Isaac, le fils qu'ils ont eu, Abraham avait, savez-vous quel âge qu'il avait? Il avait 100 ans. Sarah avait quel âge? 90 ans. À cet âge-là, d'habitude, tu n'as plus bien des enfants. Hein? 90 ans. Il s'était écoulé 25 ans avant Dieu répondre à leur prière. 25 ans. Et Dieu leur a bien dit qu'elle allait en avoir une, un enfant. 25 ans. Sûrement qu'ils priaient, peut-être, sûrement tous les jours. C'est-tu aujourd'hui? C'est-tu aujourd'hui? Durant ce temps, ils ont compris, ils ont appris que le plan de Dieu s'accomplit au timing de Dieu et par la puissance de Dieu. Ils ont appris ça. Leur personnalité, ça leur amenait à apprendre ça. L'attente prolongée a dévoilé aussi qu'il y avait de l'impatience dans leur cœur. Eh oui, comme la décision, entre autres, d'utiliser Agar, leur servante, pour avoir un enfant. Vous vous rappelez cette histoire-là? Hein? Sarah a dit à son mari, Abraham a dit, « Va, regarde, ça ne marche pas, là. Dieu ne répond pas. Bon, moi, la servante. Hein? Peut-être qu'avec elle, hein, ça va marcher. On va avoir un enfant. » Vous lirez ça dans Genèse 16, 2. Vous ne voulez pas mettre les références. Mais ça, ça a traîné des complications dans la famille, des conflits de toutes sortes, en faisant ce qu'ils ont voulu aider à Dieu, on peut dire. Hein? Ils font des petites recherches là-dessus, puis ils disent qu'à l'époque, c'était une coutume de faire ça. Je ne savais pas ça. Si la femme était stérile, on pouvait prendre la servante pour avoir un héritier. C'est important, vous faudrait des recherches là-dessus, là. C'est important d'avoir un héritier. Un petit détour, hein? Un petit détour qui n'était pas scandaleux aux yeux du monde dans ce temps-là. Comme aujourd'hui, il y en a qui vont rester ensemble, se marier, faire de même. Dans cette époque-là, ben, c'était pas mal vu. Voir ma servante, puis hein, on va s'arranger de même. Mais aux yeux de Dieu, c'était tout ça. Est-ce que c'est ça que Dieu a demandé? Tu vas voir un enfant, ça ne marche pas, tu iras voir la servante. C'est pas ça que Dieu a demandé. Hein? Comme je vous ai dit, ça a créé ça, des rivalités puis de la jalousie entre les deux femmes. Agar a dû même s'enfuir dans le désert. Elle pensait mourir là. C'est Dieu qui est intervenu. L'impatience de ce couple a entraîné des conséquences en plus qui sont encore là aujourd'hui. Les deux nations-là. L'attente les a amenés à regarder au-delà des moyens naturels. Ça les a amenés à croire à Dieu, au Dieu de l'impossible. On a le Dieu de l'impossible. C'était impossible de tomber enceinte à 90 ans. Et Sarah tombe enceinte. Ce fut un processus qui a purifié leur motivation. Et puis, ça leur a développé leur confiance en Dieu. Quelqu'un a dit, l'attente, c'est l'atelier de Dieu ou qui façonne nos cœurs. Je trouve ça beau. L'attente, quand vous priez, ça fait peut-être 10 ans que vous priez pour quelque chose. L'attente, c'est l'atelier où Dieu façonne nos cœurs. Nos cœurs ont besoin d'être façonnés encore. Notre caractère a besoin d'être façonné encore. Ben oui, mais Dieu ne répond pas à ma prière non plus. Vous avez remis ça, hein? On n'oserait pas. Peut-être que vous l'avez pensé. Isaïe, chapitre 30, verset 15. Il est écrit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. » Quel beau verset. « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais ça, c'est moins beau pour nous autres. Là. Mais vous ne l'avez pas voulu. Parfois, le Seigneur utilise les difficultés, comme vous le dites, pour nous transformer. Souvent, ces difficultés-là nous arrêtent puis à reconnaître nos limites. Tu dis, je ne suis plus capable. Là, tu t'arranges, tu vois, là, Dieu t'a amené jusque-là. ça vous est-il déjà arrivé à dire « je ne suis plus capable » Ben, Dieu voulait t'amener à ta limite. « Je ne suis plus capable. » Je me rappelle de quelqu'un qui a déjà dit ça. « Je ne suis plus capable. » Il était rendu pas mal au bout. Quand on dit ça, là, « je ne suis plus capable », c'est alors qu'on cesse de nous appuyer sur notre propre force pour vouloir s'en sortir. Puis, on se tourne vers Dieu. Dieu dit, « fait longtemps, j'attendais que tu dises ça. Je ne suis plus capable pour que tu nous fasses confiance. » Peut-être 20 ans qu'on essaye, qu'on tourne en rond, on prend toutes sortes de moyens, Abraham, elle voit ma servante. Mais Dieu dit, « quand tu vas arrêter de te penser fort, puis tu dis, je ne suis plus capable, là, on va commencer à travailler. » Dieu veut changer notre caractère charnel, souvent rempli par l'égoïsme, les querelles, la jalousie et les disputes. On va plus en mettre encore plus, hein? Par un caractère spirituel rempli du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, tous ces fruits-là. C'est en demeurant calme et ayant confiance en Dieu que la transformation va mieux s'opérer. Pas en s'agitant. Dieu ne force pas notre transformation. Il propose, il attend un oui à l'intérieur de notre cœur. Oui, Seigneur, je suis plus capable. Transforme-moi, aide-moi. Alors, moi, là, on va commencer. Dieu va commencer dans son atelier à nous transformer. Avoir confiance, c'est croire que Dieu voit tout ce qui se passe. Et c'est vrai, hein? Qu'il agit dans ma situation, même si moi, je ne vois pas encore. Dieu a préparé toutes sortes de choses. Dieu dit qu'il y a des projets pour nous, des beaux projets. Quand je m'agite et que je vis dans mes émotions, qu'est-ce qui arrive? Quand on vit dans nos émotions, on finit par s'épuiser. Mais si on se confie en Dieu, alors la paix, la tranquillité vient dans notre cœur. Pensez-vous que ce n'est pas beau avoir une église qui traverse une période difficile, de voir les gens qui restent calmes? Mais voir une église qui s'agite, « Ah, ce côté américain, ça va aller mal, la guerre, là, on verrait tous, chacun de nous autres s'agiter. » Pensez-vous que les gens qui viennent ici diraient « Ouais, je pensais trouver le calme, moi ici, là, c'est pas ça qu'ils trouveraient. Hein. » Un prédicateur en avant qui est là, qui est bien nerveux. « Ouais, qu'est-ce qui va arriver? » Imaginons un sculpteur qui est en train de travailler sur un bloc de bois. On est capable de s'imaginer ça. Où il reste à Jean Pogoli, il y en avait beaucoup avant, mais là, il y en a moins. Il y en a moins. Les coups de ciseaux qui paraissent durs, peut-être, hein, il prend son ciseau, là, puis il fait disparaître des bons gros morceaux. Mais il révèle peu à peu une forme magnifique que la sculpture, que le sculpteur avait prévu de faire. J'ai une photo, puis c'est un monsieur de Saint-Jean-Pauvoli qui est en train de travailler. Ça paraît dur, ça coûte de ciseaux, hein? Mais c'est important. Sans ça, il n'y aura jamais eu une belle sculpture. Il est vraiment à droite de ce monsieur-là. Le psaume 37:5. Il est écrit, « Recommande ton sort à l'Éternel. » Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, si je mets en pratique ce verset, mon attitude doit changer. Dans les situations stressantes, je vais arrêter de tout vouloir contrôler ma vie. Mais je vais faire confiance au Seigneur. Dieu va me rappeler que je ne suis pas seul à porter les problèmes. Ben non, je suis avec toi. En lâchant prise, je vais devenir plus calme. Je vais agir avec la sagesse d'en haut. Là, les gens vont avoir une transformation dans mon caractère. Avant, ce gars-là, quand il passait une période de même, il était nerveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais là, il est transformé. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie. C'est quoi qui s'est passé? Là, on peut leur parler du Seigneur. On peut être capable de leur parler du Seigneur. En passant, on est à Lévis, c'était hier, hein, et ma femme a donné un petit crayon à une musulmane. Elle a pu lui parler du Seigneur, elle avait un bon caractère pour lui offrir ça. Elle l'a pris. En plus, la madame, elle l'a pris, c'est surprenant, elle l'a pris. T'es bien content. Il y avait deux petites madames, une qui était chrétienne de Montréal, puis l'autre était musulmane. Elle dit, moi, je suis musulmane. Mais c'est bien que Dieu transforme notre caractère. On est plus disposé à écouter, hein, ce que Dieu nous dit et aussi à parler aux gens qui nous entourent. L'action de Dieu dans notre vie peut se manifester de différentes manières. Il peut changer la situation comme ça, si le Seigneur veut. Il peut nous donner la force de la traverser. Il dit non, tu vas traverser la situation. Ou nous montrer une nouvelle voie à suivre. Dieu dit, tu vas faire, faut que tu prennes ce chemin-là. Mais rappelons-nous une chose, la force, elle naît dans le calme. C'est pas m'agitant. Si je m'agite, je n'entendrai pas la voix de Dieu. Notre force est dans le calme. La force, elle naît quand on est calme. S'il m'arrive un problème dans ma vie, peu importe, on va en avoir, on va tout en avoir. Si je reste calme, je vais être fort. Si je m'énerve, qu'est-ce qui va arriver? On fait plein de gaffes. On fait plein de gaffes, et ça peut me suivre toute ma vie. Toute ma vie. Lisons 1 Corinthiens 6, 2, dans la Bible français courant. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? » La Bible nous enseigne que nous devons être assez matures spirituellement là, pour régler nos problèmes entre nous autres. Tu as un problème dans ta famille, dans ton couple, on a un problème dans l'Église. Dieu dit, depuis combien de temps que tu vas à l'Église, Jean-Marc? Tu devrais être capable de régler ces problèmes-là en se servant de ma parole, en te laissant guider par moi. Quand notre personnalité est conduite par l'Esprit, nous avons la sagesse et l'intelligence pour juger sainement la situation qui est difficile dans notre vie. La maturité spirituelle nous permet de régler nos conflits dans l'amour et dans la sagesse de Dieu. Hein? Pas besoin d'avoir des avocats et toutes sortes d'affaires. Le Seigneur dit, tu as un problème dans ta famille, tu as un problème dans l'Église, vous voulez donner de l'esprit, vous êtes capable de régler les querelles entre vous autres. Et Dieu nous dit, vous reconnaîtrez mes disciples à l'amour qu'ils les ont les uns des autres. C'est sûr que si on avait toujours des chicanes à l'Église, dans mon couple, moi puis Galande, on serait tout en chicane, les voisins diraient, « Ouais, c'est ça des chrétiens? » Ce ne serait pas vraiment une belle humeur. Il faut faire attention. Là où il y avait auparavant de la colère, de l'amertume ou du rejet, l'Esprit produit de la compassion, de la réconciliation et de l'amour. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher à se réconcilier, chercher l'amour. Il nous accorde la même longueur d'onde que Dieu. Il nous rend réceptifs à sa présence, à son discernement. En laissant Jésus et sa parole pénétrer en nous, cela éloigne les pensées du monde et les tentations du diable. Là, c'est une transformation qui se fait tranquillement dans nos vies. Puis c'est avantageux pour chacun de nous. C'est vraiment avantageux d'avoir un caractère selon le cœur de Dieu. Ça va nous éviter bien des problèmes. Éphésiens 4, 13 et 14. Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14. Il est écrit, « De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. » Dans la connaissance du Fils de Dieu, nous deviendrons des adultes. C'est ça que Dieu veut, hein? Qu'on devienne des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Alors, nous serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, recourant à la ruse ou entraîner les autres dans l'erreur. Il y avait une petite histoire dommage, c'était un enfant qui avait fait une grosse bêtise. Ben, une grosse bêtise. Il avait fait une bêtise, il avait cassé une vitre du garage à son papa. Je ne sais pas si c'était une grosse bêtise, mais il a fait cette bêtise-là. Alors, repentant, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a avoué à ses parents. Mais c'est moi qui ai cassé la vitre. C'est pas mon petit frère, c'est moi. Il l'a avoué au Seigneur d'avoir, à son père, à sa mère, d'avoir mal agi. Ceux-ci, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait devant une attitude comme ça? Devant le caractère de leur petit enfant qui a. Ils ont dit, tu vas en avoir une méchante punition, mon petit gars. Pensez-vous qu'ils ont dit ça? Ceux-ci, en le regardant avec amour, lui dire, tu as grandi. Ton comportement nous le prouve. Ton comportement nous le prouve. Tu as avoué ce que tu avais fait. On voit que ton caractère, ton comportement a changé. Ses parents ont rassuré l'enfant en lui expliquant que l'échec est humain, qui n'est pas une fatalité. On va tous en faire des erreurs. Nos caractères, on va sortir de site pour probablement qu'on va faire encore beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas une fatalité. On tombe tous dans différentes façons. Mais quand on échoue, on doit agir, comme nous dit le Proverbe 28, 13. Celui qui cache les transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Avouer et délaisser. Alors, quand on fait ça, on peut attendre Dieu nous dire, « T'as grandi, Jean-Marc. T'as grandi, mon fils. T'as grandi, ma fille. T'as avoué et t'as un cœur pour délaisser où t'es tombé. Tu as grandi. Tu as grandi. » Et ça plaît à Dieu. Dieu sait qu'on ne sera jamais parfait dans notre marche sur terre. Mais il veut que nous progressions de victoire en victoire. Il sera toujours là pour nous accompagner dans toute notre croissance, toujours. Il est lui qui va nous relever de nos chutes, il va nous encourager. J'aime bien ça, quelques messages que j'amène là-dessus. On est en construction. Rappelez-vous, les immersants que je tombe souvent, on est en construction. C'est pas fini. Dieu dit, je construis mon église. On est en construction. Peut-être que vous avez fait une grosse gaffe cette semaine. On avoue, on le laisse, on tourne vers Dieu. Dieu, viens-t'en, mon enfant. Viens-t'en, je vais te relever. David, plein de gens dans la Bible, vous voyez, qui ont commis des meurtres, toutes sortes d'affaires. Ils se sont retournés vers Dieu et Dieu leur a tendu la main. Dieu est gracieux. Dieu est gracieux. On tourne la page, on continue. Puis c'est merveilleux que Dieu soit de même. Ça nous rassure. Parce que dans ce corps-là, on va tout tomber. Je peux dire des gros mots, ma femme, des fois. D'autres personnes. Mais Dieu dit, tu confesses et tu te relèves. Relève-toi. Il faut se relever. 1 Corinthiens 13, 11, le dernier verset. On a une petite question à la fin du verset. Ça s'en vient. On a une petite question que vous répondriez dans votre cœur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait disparaître. Ça, c'est avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, c'est pas par lui-même. J'ai fait disparaître ce que était l'enfant. En tant que parent, si notre enfant cessait de grandir, nous ferions tout pour aider notre enfant à grandir. Hein, si vous êtes un petit bonhomme, et puis il est tout le temps au même point, on ferait tout, on irait un docteur, on lui donnerait, je ne sais pas, des vitamines, on lui donnerait une bonne nourriture, on ferait tout pour que notre enfant grandisse. C'est ça que Dieu veut, que nous autres, spirituellement, il veut qu'on grandisse. Il ne veut pas trop qu'on reste au même stade, je ne sais pas, moi, de 7-8 ans, il veut qu'on grandisse. Si l'enfant n'a aucun problème physique, puis ne grandit pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a des chrétiens qui se contentent d'être un enfant. C'est triste, hein? Il y a des chrétiens qui sont satisfaits du qui sont là. Moi, je suis un enfant, puis j'aime ça rester un enfant. Hein? Leur croissance s'est interrompue. Alors, ils ont de la difficulté à marcher par la foi. Puis ils tombent souvent, parce qu'ils pensent comme un enfant, puis ils raisonnent comme un enfant, comme c'est écrit dans le verset. Hein? Pour progresser vers la maturité, nous avons besoin de nous nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On dit souvent, Paul, Michel, qui est en avant, François aussi, on rappelle, on se le rappelle à nous autres mêmes. Un chrétien qui ne se nourrit pas, il n'est pas pour grandir. À chaque jour, il faut lire la parole de Dieu, se nourrir. Parce qu'on va rester des enfants. La méditer, la mettre en pratique. Pas juste la lire, la mettre en pratique. Écouter des chants chrétiens, ça nous aide à chaque jour, à chaque jour. Et c'est là qu'arrive ma question. Si on prendrait le temps de se poser cette question, est-ce mieux pour mon entourage et pour moi-même d'être mature ou d'être enfantin? Je la répète. Est-ce mieux pour mon entourage et pour moi-même d'être mature spirituellement ou d'être enfantin? Ce serait quoi la bonne réponse? Mature, j'espère, hein? J'espère. Dieu veut que nous ayons un cœur d'enfant, c'est sûr, c'est écrit. Mais dans le sens d'avoir confiance en lui. Comme un petit enfant qui fait met sa confiance en lui. Mais pas d'être enfantin. Dieu ne veut pas qu'on soit enfantin. Vous savez qu'il arrive une situation dans l'Église ou dans nos familles, ou peu importe, sur la route, hein, qui nous coupe, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais si on est enfantin, comment qu'on va réagir? On ne sera pas beau, hein? C'est ça, on va agir comme un enfant. C'est triste de voir des chrétiens qui seraient supposés être adultes, de voir un Jean-Marc qui serait supposé être adulte, puis il est enfantin quand il arrive une chose dans sa vie. Il agit comme un enfant. Je dis, ma femme fait sourire. Je l'ai dit pour parler. Hein? Non, il n'y a pas de ça. Fais des farces. C'est sûr que Dieu veut qu'on ait un cœur d'enfant, mais il ne veut pas qu'on soit enfantin. Être enfantin, c'est quelqu'un qui réagit selon ses émotions. Prenez une définition du mot, là. Enfantin, c'est quelqu'un qui agit selon ses émotions. Puis ça nous attire toutes sortes de conflits. Si on est enfantin, on voit toutes sortes de problèmes dans notre vie, parce que quand il arrive quelque chose, on est comme des enfants. Être mature, c'est de choisir d'agir selon la sagesse de Dieu. Donc, rappelons-nous, la maturité spirituelle rend la vie plus stable, plus profonde, et ça glorifie le Seigneur. Je termine là-dessus. Donc, si vous avez quelque chose que vous retenez sur le message, retenez cette question-là. Est-ce que c'est mieux pour mon entourage et pour moi que je sois enfantin ou que je sois mature? Et ça va. Dieu faisait ça souvent. Hein? Quand il arrivait quelque part, il posait des questions aux gens pour les amener à réfléchir. À ce moment-là, si on tombe dans quelque chose qui est enfantin, bien, tu vas te dire, hey, j'ai agi comme un enfant là-dedans, ça. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.